Chapitre 1, l'appel.
Allez, Einstein, ici Apollo, c'est bon, on s'est posé. C'est bon, hein?
Ils l'ont fait.
Ils se sont posés.
Son histoire est incroyable. Et pourtant, essayez donc, avec nous, de ne pas y croire.
Par rapport à vous, je suis immortel. Mais, de fait, je ne le suis pas. Puisque nous sommes dans le temps et avec le temps, la solution viendra lorsque le temps s'arrêtera.
Préfèrent ne retenir qu'un beau récit pour alimenter leurs rêves.
Enchantillage, une totorifiction de Bourdou. Ce matin, le téléphone a sonné très tôt, il m'a sorti de mon rêve. J'avais oublié de le mettre en mode avion. Je pensais profiter de cette belle journée pour glander un peu au lit et faire un plouf un peu plus tard dans la rivière. Mais il faut croire que le destin avait d'autres projets pour moi. J'ai laissé le répondeur se déclencher.
Bonjour, Pauline, c'est Sandrine. Je vous appelle depuis la base de l'Observatoire international des Totors à Bourdeau. Alors voilà, les Totors, ils ont tous disparu, les cinq fétiches, volatilisés, plus rien. On sentait bien qu'il y avait une mutation en cours, qu'il se passait un truc, mais là, plus une trace. Bon, vous connaissez bien le terrain, et puis en matière d'ondes journalistiques, vous êtes une experte. Alors nous, on compte sur vous, on a absolument besoin de votre aide. Il faut venir au plus vite. Allez, à tout de suite, hein.
Quand et comment les Totors sont-ils arrivés à Bourdeau ?
Comment ils sont arrivés, c'est assez mystérieux.
Sandrine est totorologue.
De façon un peu magique, les uns après les autres, ils sont apparus dans des superstations de Bourdeau, c'est-à-dire des endroits qu'ils ont visiblement choisis pour s'installer quelque temps.
Quelle est l'énigme que l'on va tenter de résoudre ?
Cette semaine, nous allons mener du coup une totorification sonore et immersive pour comprendre où sont passés les Totors qui vivaient à Bourdeau.
Salomé est directrice du centre de loisirs de Bourdeau.
Pour cela, le centre de loisirs est devenu un observatoire international des Totors. Et pour mener l'enquête, il faut avoir du temps, ne pas être engourdissonné dans un quotidien. Et pour qui le temps n'est qu'évasion ? Les retraités, les rêveurs, les voyageurs, les enfants, ou tout ça en même temps, justement ? Les enfants sont des agents révélateurs ou les agents sont des enfants révélateurs? C'est vous qui allez nous aider dans cette enquête à mieux comprendre ce phénomène mystico-extraordinaire.
Ce qu'on a pu constater souvent dans ces observatoires, c'est que soit les Totors s'arrêtent dans un endroit parce qu'il y a un problème à régler ou quelque chose à rassurer. Par exemple, on en a observé à Stein, juste après le Covid, en banlieue parisienne. Et clairement, quand on a étudié les qualités des Totors, c'était certain que c'était des Totors qui étaient là pour protéger les habitants. Notamment, il y avait un Totor qui s'appelait Totère, qui protégeait des microbes, des virus et des maladies graves. Il soufflait dessus pour les renvoyer dans l'espace. Donc on se doute que s'ils se sont installés à Bourdeau, c'est qu'ils avaient une mission un petit peu. Est-ce que c'est pour rassurer les gens ? Est-ce que c'est pour la beauté du paysage, parce qu'il y a certains endroits, c'est aussi juste à cause de ça qu'ils s'installent là, parce qu'ils trouvent ça très beau.
Pourquoi l'Observatoire des Totors s'est planté au centre des loisirs ?
Lors de la construction du centre, il y a fort longtemps, nous avons retrouvé des galettes d'argile avec le symbole des Totors enterré dans la terre. La concentration exponentielle d'enfants. Je vous rappelle que le bâtiment se partage entre l'école du village, le périscolaire, la cantine et l'accueil de loisirs. Ça en fait donc un endroit tout à fait propice à mener une totorifiction. Donc le centre de loisirs a été choisi pour être l'Observatoire international des Totors.
Chapitre 2, Bourdeau. Dès le lendemain, au petit matin, à la fraîche, je suis allée prendre un peu de hauteur au château. C'était très beau de voir briller les lumières de Bourdeau depuis là-haut. Et je pensais aux anciens. Je me demandais comment ils voyaient cette histoire à dormir debout. Des fétiches arrivaient du jour au lendemain dans les rues du village, comme des sortes de mascottes ou d'amulettes. Est-ce qu'ils avaient la frousse ? Est-ce qu'ils s'étaient mis à accrocher des fers à cheval aux fenêtres ? Nous sommes partis avec les enfants à la rencontre d'André, une des anciennes du village qui avait atteint l'âge de la sagesse et pas vraiment du genre superstitieuse.
Les Totors ont quitté Bourdeau et ce qu'ils vont te manquer.
Alors, j'ai trouvé ça très énigmatique et drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé le Totor Gloops. Je trouvais que ça faisait une belle femme. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un petit point lumineux. Je voulais lui faire des tresses. J'aimais bien parce que cette couleur bleue, ça mettait une note de gaieté sur la place.
Est-ce que tu peux te présenter, André ?
Je suis née en 1941, c'est-à-dire que j'ai 83 ans. Mes parents avaient une ferme et moi, j'ai habité Bourdeau. Je travaillais au village parce que j'avais un salon de coiffure, le lieu où vous êtes. Et je suis très heureuse de vous recevoir parce que j'ai beaucoup aimé les Totors.
Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du Totor du Lavoir ?
Ah, je trouvais que le Totor du Lavoir, chaque fois que je passais, il me faisait un petit coup d'œil. Un petit clin d'œil, tu sais. J'aimais bien parce qu'il brillait un peu quand même. Hein. C'était... Quand j'étais à l'école à Bourdeau, j'étais enfant, donc on allait s'amuser au châtelet. C'était la pièce de jeu de tous les enfants de Bourdeau. On s'était aperçu qu'il devait y avoir un peu des caves. C'était sombre. Alors, on pensait qu'il y avait un tunnel. Et on envoyait des pierres, ça résonnait, et on avait l'impression qu'il y avait un œil qui brillait. Alors, ça nous faisait peur. Mais, tu sais, on ne sait rien. Dans nos archives bourdeloises, on n'en parle pas. On sait bien qu'il devait y avoir des trucs qui n'étaient pas très, très gentils, qui faisaient peur. Et alors ça, tout le monde en parlait, mais personne ne l'écrivait. Les Totors et les fantômes et tout ça.
Merci beaucoup pour votre aide et au revoir.
Alors je vais vous les donner.
André donne aux enfants 4 masques
pour ma maison.
Avec pour mission de les faire parler.
Vous allez leur apporter
le Centre international d'observation des Totors.
Je veux voir.
Vous avez vu, c'est pour ça que ils brillent. Vous avez vu leurs yeux comme ils brillent.
Vous êtes des créatures colorées.
Oui. Oui. Quelle sorte d'insectes ?
Des vers de terre.
Oui.
Des scarabées.
Des fourmis.
Des chenilles.
Des scorpions.
Parce que c'est un gros outil.
Des fourmis, c'est sucré.
Ouais, moi aussi j'aime bien les fourmis.
Vous êtes tous de la même famille ?
Ouais. Les filles, elles ont les yeux dorés. Les gars, ils ont les yeux verts.
Est-ce que vous êtes des Totors ?
Ouais. Je fais de bois, de terre, de feuilles, d'argile et de pierre. Moi, de bois, de champignons.
Chapitre 3. Pollen sonore. Tout à coup, je me suis rappelé que j'aurais dû donner un coup de fil. Mais j'étais au bout de mon forfait. On était en fin de mois. Il allait falloir trouver un autre moyen de communication pour suivre cette mission. Avec les totorologues, on a pris nos jambes et on est monté toquer chez Marie-France. En chemin, on s'est mis à discuter du souffle.
On est allé au quai pour voir un arbre qui chante. On s'en est arrêté devant un qui ressemblait à celui qu'on a eu en photo. Mais c'était pas lui qui chantait. On a entendu un autre truc qui chantait. Et on est allé le voir. Et c'était un arbre avec un gros trou. Et lui, il chantait.
On a entendu une chanson. On est allé voir. Et j'ai vu le signe des totors.
C'était une sorte de flûte un peu.
De flûte.
Chapitre 4. Un rêve. Assise là, sur mon banc, alors que la guerre en Ukraine n'en finissait pas, pas plus que le conflit israélo-palestinien, la France, elle, attendait encore son Premier ministre, j'ai décidé de donner à cette aventure la forme d'un feuilleton en 6 chapitres. Les chapitres, ça structure, ça donne une forme, c'est rassurant pour tout le monde. J'ai avalé vite fait un café et j'ai filé jusqu'au centre. La délégation des totorologues était en pleine effervescence. Une nouvelle missive était arrivée depuis le centre du Danemark. Une image de Clos-Clic-Clos, l'horloge à fleurs enfouie dans la neige. Un truc identique à celui observé à Bordeaux se trouvait en plein milieu du Groenland. J'ai alors proposé d'aller à la rencontre de Jacques Martinango, un habitant du quartier où les enfants avaient pu observer ce totor caché dans la bouche d'égout. Il n'avait pas l'œil dans sa poche et sûrement des trucs intéressants à nous raconter.
Écoutez, c'est curieux parce que cette nuit, j'ai fait un rêve. Je me souviens que c'était une très belle nuit étoilée. Il y avait des réverbères qui éclairaient la rue. Je marchais un petit peu et puis je me suis dit, mais quelle heure est-il ? Je vois une horloge. Et puis cette horloge, bon, elle était un peu éclairée, pas très bien éclairée dans la rue. J'ai l'impression que les aiguilles ne bougent pas, on dirait. Alors je reste un moment, et puis les aiguilles ont l'air de tourner dans l'autre sens, à contresens. Et le temps revient en arrière, c'est vraiment bizarre. Et puis alors, à ce moment-là, j'entends un carillon, un petit carillon, et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Et en fait, il y a une maison, c'est éclairé. Je m'approche parce que je suis curieux quand même, je regarde, et à ce moment-là, je rentre tout doucement par la porte, je pousse la porte, et puis, il y a dedans, dans une grande pièce, beaucoup de gens, un petit peu comme vous ici, qui discutent, qui parlent. Mais alors, ils parlent d'une façon assez curieuse, très lentement, je dirais, de façon un peu molle, enfin, quelque chose de très très lent. Je ne comprends pas les mots, je ne comprends pas les phrases. Alors, je m'avance dans le couloir. Au fur et à mesure que je m'avance dans le couloir, je vois que c'est plus un couloir, c'est une espèce de galerie, comme une grotte. Et au fur et à mesure de mon avancée dans ce couloir, la lumière revient. La lumière devient tellement forte que je suis complètement ébloui. Et là, hop, je me réveille.
Le truc, c'est que ce rêve que Jacques nous racontait là, j'avais fait exactement le même la nuit dernière. Chapitre 5. Un caillou vivant, un totor volant.
Les choses commençaient à se compliquer. J'ai décidé d'aller chez moi prendre une douche avant de rejoindre les totorologues. Juste après, on avait rendez-vous avec Jean-François, un ancien médecin de Bordeaux qui avait fait une jolie découverte en se promenant le long du Roubion.
Alors expliquez-moi.
Hein ?
Quoi ?
Il était là, là !
Là ?
Oui.
Dans le trou ?
Oui.
Il était comme ça.
Vous l'avez tous vu ?
Il était comme ça.
Il était comme ça.
Ils contrôlent la rivière.
Les gens, effectivement, ont pris certaines actions des totors comme, mon Dieu, des choses bénéfiques. Mais était-ce la vérité ? Personne ne le saura. Donc Archinaud, un jour, il m'a consulté. Et puis bon, moi, j'ai essayé de lui trouver des solutions et tout ça, mais ça n'a pas été terrible. Donc il n'était pas content du tout. Donc pour se venger, un jour, il savait que j'aurais ramassé des cailloux près de sa grotte là-bas. Et donc, il avait déposé un très beau caillou pour que je le ramasse, et en le ramassant, crac, j'ai eu mal au dos. Parce que tu sais, les gens, d'abord, certains croient au miracle, mais ils n'en parlent pas, et puis d'autres, ils n'y croient pas du tout, donc pour eux, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, ça fait parler du monde, ce qui est bien, les gens communiquaient comme ça.
L'entrevue a été interrompue soudainement par un coup de fil qui venait d'Australie.
I'm Bernie Baker, and... J'aime me présenter comme un explorateur, même si... Tu vois ce que c'est un explorateur ?
Ouais, je vois.
Ok. Ben, aussi, parfois, je cherche les curiosités ici en Australie et je travaille avec des scientifiques ou parfois des touristes pour gagner un peu ma vie aussi. Et je rencontre énormément de choses très... très curieuse ici en Australie.
Où Plantoine a choisi de s'installer?
Ok. Où? Eh bien, si tu veux mettre ton doigt sur une carte, it's actuellement in Roxby Downs. C'est là que je suis en ce moment, à Roxby Downs. Voilà la réponse courte. J'écoute à l'attentif.
Pourquoi cet endroit en particulier?
Tu sais, cet oiseau, au départ, existe pour de vrai. J'ai appris par un ornithologue qu'il s'appelle le Merieux Splendide. Tu pourras aller voir. Ça, c'est l'oiseau bleu. Et il y a une légende qui dit qu'il était blanc avant, mais à force d'avoir volé dans le ciel bleu toute sa vie, il est devenu bleu. Tu comprends? Et il y a un endroit à Roxby Down où il y a une communauté d'enfants qui sont aborigènes et qui sont très attentifs aux oiseaux, qui savent chanter, traduire le chant des oiseaux en chant des humains. Et c'est très particulier à Roxby Down. Et je crois que l'oiseau bleu a été attiré par les enfants à Roxby Down. Et les enfants m'ont bien accueilli parce que je suis encore un peu enfant moi-même.
Chapitre 6 : La porte du temps. J'étais à 100 mètres de la station de radio, en train de penser à mes chaussures, quand, dans un éclair, le nom de Benoît Carpentier m'a traversé l'esprit et j'ai lâché « Fantastique !» J'ai vite fait volte-face et j'ai foncé vers la Viale de Bordeaux, où je savais qu'il avait établi ses quartiers. C'est tout en haut de la viale, sous le château, dans une grotte, que nous l'avons sorti de sa torpeur. Il fumait, assis au soleil, et semblait plongé dans une grande réflexion.
Je suis totorologue. Moi, c'est-à-dire que j'étudie les comportements des totors. Les totors, vous les connaissez? Vous en avez rencontré un peu? Et c'est un peu comme un zoologiste, un peu qui étudie les comportements des animaux, ou un anthropologue qui étudie les comportements des sociétés humaines. Alors effectivement, il y a un an, ils sont arrivés. On s'est demandé, bah tiens, c'est qui ceux-là? On a communiqué avec eux comme on pouvait, on a imaginé des choses. On a utilisé une méthode que j'aime beaucoup, c'est la méthode des trois sions, observation, corrélation et imagination. qui consiste donc à bien regarder ce qui se passe autour de nous, à imaginer des choses et à mettre tout ça en lien pour comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc ici, il y avait le bureau des entresortilèges. C'était le bureau un peu des toteurs, l'endroit où on pouvait rentrer en lien et dialoguer. Il y avait une boîte aux lettres où on déposait des questions, les toteurs nous répondaient. Ça permettait de, voilà, de rentrer en contact avec eux. Et là, depuis que tout le monde a disparu, même le bureau a disparu, et il y a ces traces-là qui sont apparues. Et on se questionne sur qu'est-ce que ça pourrait être et pourquoi c'est là. Et bien ça, j'ai l'impression que c'est un peu la réponse qu'on a ici, en voyant cette spirale encadrée. Le cadre en général, c'est un peu comme les peintures, c'est une porte qui nous emmène quelque part. Et c'est ce que je pourrais en déduire, c'est qu'ici nous sommes dans une porte spatiale déjà pour se déplacer à un autre endroit. Donc j'imagine que les totors sont rentrés par là, enfin sortis plutôt, sortis de Bourdeau par là, pour aller à un autre endroit. Et je dirais même que ce serait aussi une porte temporelle, parce qu'apparemment on a retrouvé des traces dans l'Antiquité, il y a très longtemps, de totors. Et donc ici, tout semble à croire que c'est une porte spatio-temporelle, qui, alors n'essaie pas de rentrer dedans parce que vous risquez de vous cogner, ça serait apparemment plutôt une trace.
On sait comment elle s'ouvre, cette porte?
Alors, comment elle s'ouvre, difficile à dire. Moi, j'ai essayé de passer ma main dedans, ça c'est pas passé. Est-ce qu'il faut être un totor pour qu'elle s'ouvre? C'est possible. Après, peut-être par imagination, on peut se balader dedans. Un peu comme une peinture où le corps ne peut pas rentrer dans la peinture, mais le regard peut passer et rentrer dans un paysage qui est peint. Ici, j'ai l'impression que c'est l'imagination qui nous permet d'ouvrir cette porte. Peut-être qu'elle se réouvrira dans quelques années, c'est pas interdit que les totors se disent « Bah tiens, on retourne à Bourdeau, on s'y est bien plu, et si on repassait par là pour aller voir comment les gens ont changé, comment toi t'as grandi ?» C'est possible. Actuellement, là, elle semble fermée, en tout cas.
Je pense que ils étaient en ligne, ils se tenaient la main, et avec leur imagination, ils ont ouvert le portail, et ils sont rentrés dedans. Peut-être on pourrait essayer.
Tu veux qu'on essaye?
Ouais.
Vous essayez? Peut-être envoyer des vibrations
il faut
un peu.
Imaginer.
Envoyer
imaginer
des vibrations.
Fermez les yeux.
Là, on sent qu'on commence à rentrer dans la spirale, non? On sent pas un peu de fraîcheur au bout de la main?
Si.
Si, un peu. Hein.
Oui.
Je me suis alors remise à penser à mes chaussures.
Alors, cette porte
à dire vrai, je ne pensais pas que le monde soit encore tout à fait prêt pour une telle découverte.
Deux spirales, vous voyez, comme les yeux. Donc, vous pouvez imaginer que cette spirale-là est reliée à une autre spirale de l'autre côté de l'espace. Là où
il y avait encore de la marge à gratter au niveau du dépoussiérage des peurs. Les enfants avaient fait des efforts louables pour nous donner un peu de matière et faire avancer la libération des élans. Mais ce qui était sûr, c'est que l'énigme des totors, c'était une chose sur laquelle on ne pouvait pas imaginer avoir le dernier mot. Je suis finalement partie faire un plouf à la piscine, presque comme prévu.
Enchantillage, une totorifiction de Bourdeau. Conception et mise en scène, Sandrine Furer. Conception et réalisation sonore, Pauline Lemaire Desmarais. Avec la participation de Jacques Martinango, André Barnouin, Marie-France, Jean-François Dessus, Benoît Carpentier, Bertrand Boulanger et Salomé Bolz. Merci à Stéphanie Coiffure, à l'Office du Tourisme, au cabinet médical, à la mairie, à Radiola, à l'accueil de loisirs de Bourdeau et ses animatrices, à Alain Sénéra et les amis du pays de Bourdeau, et à Pierrick. Une action soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'été culturel 2024 et le FDVA. Les 5 totors de Bourdeau ont été réalisés en avril 2023
par Bertrand Boulanger et Benoît Carpentier, avec l'aide des enfants du Centre de loisirs, sur une idée originale de Stéphane Usan. Une production de la compagnie Carnaval.